Donc je vous présente maintenant notre conférencier de ce soir, Jean-Louis Mandel, qui est médecin généticien au Collège de et professeur au Collège de France à la chaire de génétique humaine. Il est chef de service du laboratoire de diagnostic génétique au CHU de Strasbourg. Il est docteur en médecine et docteur en sciences. Il a été récompensé par de nombreux prix. Et un petit mot rapide sur ses spécialités. Donc, il travaille sur les maladies monogéniques neuromusculaires, notamment en une date importante qui est 1991, où il découvre le mécanisme génétique responsable du syndrome de retard mental de l'X fragile. Simplement vous dire aussi qu'il a écrit de nombreux articles dans des revues internationales et une conférence qu'il avait déjà donnée en l'an 2000 sur les bases génétiques des maladies et le diagnostic génétique. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans un ouvrage de l'Université de tous les savoirs. Voilà, donc je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi vous pourrez lui poser des questions.
Voilà.
Merci beaucoup.
Je vais dans l'article. Merci. Donc, je suis très... Ah, qu'est-ce que... C'est pas ça que je voulais montrer. Alors, excusez-moi. Il faut que je remonte. Petit problème. Voilà. Pourquoi on... Oui, voilà, nous y sommes. Donc, effectivement, aujourd'hui, bien que je sois dans mon travail de recherche plutôt complètement un spécialiste de maladies rares, de ce qu'on appelle les maladies monogéniques, je vais vous parler un peu de maladies monogéniques, mais je vais vous parler surtout, effectivement, de toute cette excitation sur des résultats extrêmement intéressants sur les prédispositions génétiques aux maladies communes, mais en essayant de voir, effectivement, est-ce que vraiment ça peut donner lieu à une médecine prédictive ou personnalisée comme un certain nombre de gens le prédisent. Je n'ai pas entendu la conférence de mon collègue et ami Daniel Cohen, qui, en tout cas dans le temps, était certainement beaucoup plus enthousiaste que moi sur, en tout cas à court terme, les perspectives de passer à cette médecine dite prédictive. Et donc, effectivement, on peut se demander si notre génome humain nous conditionne, ou comme dans cette œuvre d'Alechinski, en fait, les êtres humains sont joyeusement inconditionnés. Alors, un petit rappel, bon, peut-être que la plupart d'entre vous ont assisté à beaucoup de conférences, mais simplement pour vous rendre compte de ce que c'est le génome humain. Une copie du génome humain, et nous en avons évidemment deux, puisqu'il y en a une qui nous vient de notre père et une de notre mère, eh bien, une copie du génome humain, c'est 500 000 pages de ATGC, comme celle-ci. Et ce génome humain, eh bien, il est variable, pas trop, parce qu'il faut quand même que nous gardions nos caractéristiques d'espèce humaine qui nous différencient des autres espèces, y compris de nos cousins proches, les grands primates. Donc, c'est 3 milliards donc, de nucléotides, environ 25 000 gènes, et environ une position sur 400 ou 500 dans cette séquence présente ce qu'on appelle un polymorphisme, c'est-à-dire que, au moins dans une des populations du globe, il peut y avoir un variant qui est présent dans plus de 5% de la population. C'est ce qu'on appelle la définition du polymorphisme. Mais en fait, il existe également des variants rares, des variants qu'on va trouver peut-être que chez une personne sur 100, chez une personne sur 1000, chez une personne sur 10 000, et qui augmentent encore, évidemment, cette variabilité du génome humain. Et donc, on estime qu'entre deux copies du génome, il y a environ 0,1% de différence. Mais 0,1% de différence, ça fait 3 millions, 3 à 4 millions de différences. Et d'ailleurs, très récemment, le génome de Jim Watson, celui qui trouvé la structure en double hélice de l'ADN, a été séquencé. Et effectivement, c'est exactement le chiffre qui a été trouvé. Il y a à peu près 4 millions de différences entre le génome de Jim Watson et, disons, ce qu'on appelait la séquence du génome humain, qui est en fait une séquence d'un génome d'humain un peu mélangé. Alors, 0,1% entre deux copies de génome humain à comparer à environ 1% de différence entre nous et le chimpanzé. Alors, autre chose quand même qu'il faut mentionner, c'est que grâce au progrès technologique et de ce qu'on appelle les puces à ADN, dans les 2-3 dernières années, on s'est aperçu qu'en dehors de ces changements de lettres, ces variations qui étaient dues à des changements de lettres, il y a une source de variation qui est d'une importance qui était complètement insoupçonnée, qu'on appelle des variations de nombre de copies de segments du génome. C'est des choses qui ont pour cible des segments de génome qui peuvent avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers ou même centaines de milliers de bases de lettres. Donc, en principe, on a 2 copies de chaque segment du génome, mais on s'est aperçu qu'il y a des endroits dans le génome où il y a des variations et on peut avoir une copie seulement au lieu de 2 ou 3 copies ou même 4 copies. Et donc ceci ajoute variation qui était insoupçonnée et dont on commence à s'apercevoir, par exemple, qu'elle est certainement très importante, par exemple, dans l'autisme. Alors maintenant, juste pour dire un petit peu du point de vue des mots qu'on peut utiliser, on parle souvent de médecine prédictive ou de médecine personnalisée, c'est pas tout à fait la même chose. La médecine prédictive, c'est effectivement de pouvoir dire, avant que les symptômes soient présents, de dire, voilà, telle ou telle personne a des prédispositions plus ou moins importantes à avoir un cancer de la prostate ou une polyarthrite rhumatoïde ou une schizophrénie. Et tout ça n'a d'intérêt, évidemment, que si ça permet de faire quelque chose pour essayer, justement, de diminuer ce risque. Cette estimation du risque, elle ne se base pas uniquement sur les données génétiques, elle peut se baser sur l'histoire familiale de la personne. On sait très bien que si personne a des antécédents de maladies cardiovasculaires dans sa famille, chez ses parents ou chez ses frères et sœurs, eh bien lui-même, on peut calculer qu'il a un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. C'est ce que le risque familial. On a des paramètres biologiques, par exemple, quelqu'un qui a un cholestérol élevé, on sait qu'il va être à risque d'avoir des accidents cardiovasculaires, etc. Donc, ceci a pour but, effectivement, de pouvoir éventuellement mettre en place une prise en charge qui peut être du mode de vie aussi, pas uniquement une prise en charge médicamenteuse, mais des conseils pour essayer, effectivement, pour des personnes qui auraient une prédisposition particulièrement forte, de diminuer ce risque. Et en fait, finalement, quand un médecin prend l'attention, quand il fait un test de glycémie, il fait en fait de la médecine prédictive, parce que ça n'est pas parce qu'on a une tension à 15 ou 16, disons, qu'on se sent mal, mais ça peut entraîner, au cours du temps, des problèmes. Alors, la médecine personnalisée, ça c'est déjà quand on a une maladie, et où il s'agit de savoir, est-ce qu'on peut trouver des raisons, et là on va dire dans la génétique éventuellement, ou dans d'autres choses, de se dire que tel médicament marcherait mieux que tel autre, ou qu'au contraire, vous savez qu'un des gros problèmes en thérapeutique, c'est les effets indésirables, c'est-à-dire les personnes qui font des troubles parfois très sévères à cause du médicament, et donc ça serait très intéressant de pouvoir dire à telle personne, il faut qu'elle fasse très attention parce qu'elle serait particulièrement à risque d'avoir des effets indésirables. Et j'allais dire que pour l'industrie pharmaceutique, ça serait très très important, parce que vous savez que très récemment encore, Merck ou d'autres compagnies pharmaceutiques ont dû retirer du marché des médicaments qui se vendaient très bien, parce que, par exemple pour un anti-rhumatismal, parce qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont fait des crises cardiaques, et même certains qui sont morts, et donc c'est effectivement très embêtant, et ils ont dû retirer leurs médicaments qu'ils vendaient très bien du marché, c'est une perte énorme. S'ils pouvaient dire qu'en faisant un certain nombre de tests, on pourrait dire, voilà, dans la population, il y a 5% des gens qui doivent prendre des doses plus faibles de ce médicament ou qui doivent prendre un autre médicament, et parce que c'est eux qui ont les risques, ça serait effectivement très intéressant. Le problème, c'est, on va voir, est-ce que on arrivera à prédire suffisamment pour ça, mais c'est le but de ma conférence. Alors maintenant, rapidement aussi, gènes et maladies, puisque je dirais, il y a trois types de maladies où les gènes interviennent. Il y a les maladies dites héréditaires, ou qu'on appelle aussi monogéniques, qui sont en général donc des maladies rares, où là, la variation génétique est vraiment causale, c'est-à-dire que si vous avez une mutation qui inactive le gène dystrophine, le gène de la myopathie du chêne, eh bien, il y aura automatiquement, je dirais, une maladie sévère qui est la myopathie du chêne. La même chose, s'il y a des mutations dans le gène de la mucoviscidose, eh bien, ceci est nécessaire et suffisant pour que l'enfant développe une maladie sévère qui est la mucoviscidose. Donc, dans le cas de ces maladies monogéniques, une lésion, une mutation dans un gène suffit à entraîner, d'une manière quasi systématique, bon, ça peut, il peut y avoir des exceptions, on y reviendra, la maladie. Donc, c'est vraiment causal. Et il y a d'ailleurs, on utilise ce qu'on appelle le risque relatif. Le risque relatif, quand vous parlez de en quoi la présence d'une variation génétique entraîne vraiment un risque plus ou moins élevé d'avoir la maladie, eh bien, on se demande quel est le risque si on a cette variation génétique par rapport au risque si on n'a pas de variation génétique dans ce gène. Eh bien, dans le cas d'une maladie héréditaire, monogénique, le risque relatif est extrêmement grand, 100, 1000, etc. Parce que, effectivement, si vous avez la mutation, vous avez la maladie. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la maladie. Par contre, c'est très différent pour les maladies communes, dites multifactorielles, où là, en fait, ça va être des variations individuelles, ce qu'on appelle donc notamment des polymorphismes, peut-être dans de nombreux gènes, qui vont contribuer, certaines variations vont augmenter le risque, d'autres peut-être vont protéger, et donc vous aurez toute une combinatoire de variations individuelles qui vont moduler le risque de développer la maladie, mais ceci en interaction avec l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on fume, c'est ce qu'on boit, c'est le stress, c'est le fait que l'on fasse ou non une activité physique. Tout ça, c'est l'environnement. Et donc, ces variations dans de nombreux gênes, et c'est ça dont je vais parler, qu'à l'heure actuelle, il y a des recherches extrêmement intenses pour essayer d'identifier ces variations qui sont présentes dans la population normale et qui vont plus ou moins moduler le risque de maladie. Et puis, une dernière maladie dont je ne parlerai pas, c'est le cancer, puisque là, en général, c'est des mutations, non pas dans toutes les cellules, c'est pas des mutations germinales, mais des mutations somatiques qui sont survenues dans certaines cellules du corps et qui donnent à ces cellules des propriétés tumorales. Alors, je vous avais dit que dans les maladies dites monogéniques ou héréditaires, la mutation est causale. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle prédit tout? Est-ce que ça veut dire qu'elle prédit que la maladie se déroulera d'une manière stéréotypée? Est-ce qu'on peut prédire la sévérité? Est-ce qu'on peut prédire l'âge de début de la maladie? Ou même, est-ce que la maladie va toujours apparaître? Eh bien, quand on parle de la myopathie du chêne, par exemple, s'il y a une mutation sévère dans ce gène dystrophine, eh bien, on peut prédire qu'il y aura myopathie du chêne dans 100% des cas, et que cette myopathie sera grave dans 100% des cas, et on sait à peu près, il n'y a pas énormément de variabilité. Quand on prend la mucoviscidose, une mutation sévère dans le gène de la mucoviscidose, on peut aussi prédire que ça va entraîner une forme sévère de mucoviscidose de manière systématique. Mais là déjà, on va voir quelque chose, c'est que l'espérance de vie et la qualité de vie de la personne ayant ces mutations vont dépendre de facteurs dans l'environnement, vont dépendre de est-ce que la prise en charge a été précoce, est-ce qu'elle a été de bonne qualité. Et un collègue disait quelquefois que la qualité, l'espérance de vie de la mucoviscidose tient en partie non pas à la génétique, mais à au niveau social des familles qui peuvent ou non, je dirais, se permettre d'aller à des consultations spécialisées ou qui sont très attentives ou pas au problème. La phénylcétonurie, voilà encore une maladie qui, il y a 50 ans, entraînait de manière systématique un retard mental extrêmement sévère. Et maintenant, c'est quelque chose qui a quasiment disparu, alors que les mutations sont restées. Pourquoi ? Parce que on fait un dépistage systématique à la naissance de cette maladie génétique, et on sait que cette maladie génétique, si on fait un traitement diététique pauvre en phénylalanine, eh bien, on n'a plus ce retard mental. Donc, si vous voulez, la maladie, les mutations sont là, la maladie est potentiellement là, mais l'environnement, c'est-à-dire va faire que finalement, cette maladie ne va pas se développer, en tout cas le retard mental ne va pas se développer par, je dirais, un traitement diététique. Alors, une dernière, par exemple, la maladie de Huntington, qui est une maladie neurologique, neurodégénérative assez effroyable, qui est causée par une erreur un peu particulière au niveau du génome, puisque dans un gène donné, il y a une répétition du motif CAG, et si cette répétition est trop longue, et au-delà d'un certain seuil, eh bien, ça va entraîner la maladie, et plus la répétition est longue, plus la maladie surviendra tôt. Alors, on pourrait se dire, ça, c'est très prédictif. En fait, ici, vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer, les barres indiquent, pour une taille donnée du nombre de CAG, en moyenne, par exemple, on va dire que si la taille est de 45, les gens vont commencer cette maladie neurodégénérative vers l'âge de 45 ans. Mais c'est 45 plus ou moins 10. Or, avoir une maladie neurodégénérative extrêmement sévère, vraiment effroyable, si elle commence à 35 ans ou si elle commence à 55 ans, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc ça, pour le moment, on ne sait pas le prédire. D'accord ? Donc c'est pour vous donner les limites. Et on va aller un point encore en plus. Il y a des formes de cancer du sein qui sont des formes dites monogéniques, liées à des mutations du gène BRCA1 ou BRCA2. Mais pour la femme qui porte une de ces mutations, ce n'est pas 100% de risque d'avoir un cancer du sein. C'est probablement un risque de 70 à 80% d'avoir un cancer du sein avant l'âge de 75 ans ou 80 ans. Sans qu'on puisse prédire, donc, est-ce qu'une femme fera partie des 20% qui n'aura pas de cancer du sein? Ou même, est-ce que ce cancer du sein surviendra à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 65 ans? Donc, vous voyez que là aussi, il y a déjà une incertitude, bien qu'on soit encore dans ce qu'on appelle des maladies monogéniques, où, effectivement, cette mutation est vraiment causale d'un risque très élevé, mais pas tout à fait 100%. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Alors, ceci dit, juste pour vous dire que ces incertitudes, effectivement, posent un problème, comme par exemple, on fait du diagnostic prénatal, puisque, effectivement, les parents aimeraient savoir, est-ce que si on a trouvé telle ou telle mutation, c'est sûr qu'il sera très malade ou pas? Dans certains cas, la myopathie du chêne, on peut dire oui. Dans d'autres, eh bien, c'est moins sûr, on n'est pas sûr de la sévérité de la maladie. Même si on est dit, il a la mutation, il aura la maladie, mais est-ce que ça sera une maladie extrêmement sévère ou pas trop? Ça, on ne peut pas le dire. Et puis, se pose le problème, puisqu'on dit qu'on peut prédire, par exemple, pour des maladies comme la maladie de Huntington, qui a un début tardif, puisqu'en général, elle commence vers l'âge de 30, 40, 50 ans, se pose effectivement la question... Est-ce que vraiment la personne qui est à risque, parce qu'elle a un parent qui a eu la maladie, est-ce qu'elle veut savoir à quoi ça lui sert de savoir à l'avance que, à l'âge de 40 ou 50 ans, elle va développer cette maladie tragique? Eh bien, certaines personnes veulent savoir, d'autres ne veulent pas savoir, parce que pour le moment, en tout cas, le fait de savoir ou non ne modifie malheureusement pas la prise en charge médicale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire qui pourrait prévenir pour une personne à risque cette maladie de se dérouler. Donc, si vous voulez, ça indique une chose. Déjà, dans ces maladies où l'aspect prédictif est très fort, l'intérêt de la prédiction, il est grand si on est comme dans la phénylcétonurie où on sait, on prédit, mais on peut faire quelque chose. Mais si on fait que prédire et qu'ensuite on n'a pas vraiment quelque chose à faire, une personne peut décider personnellement qu'elle veut savoir, mais on ne peut pas lui dire qu'effectivement ça va être vraiment utile pour elle. C'est une décision personnelle. Alors maintenant, dans les maladies communes, c'est différent. C'est pas les risques dans une famille ne sont pas de 25 ou 50% comme dans les maladies monogéniques, mais on sait que pour les différentes maladies communes, ici il y en a certaines, si vous avez un père ou une mère ou un frère ou une sœur qui sont atteints par exemple de diabète insulino-dépendant, eh bien, alors que le risque dans la population générale d'avoir un diabète insulino-dépendant, c'est environ 0,3%, eh bien, ce risque va être multiplié par 10 à 20 si votre frère ou votre sœur a déjà fait un diabète insulino-dépendant. Donc, il y a, pour l'asthme ici, par exemple, pourcentage de l'asthme dans la population générale, c'est environ 4%. Si vous avez un père, une mère, un frère ou une sœur qui avait de l'asthme, eh bien, votre risque va être vers 9 ou 10%. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, dans les maladies communes, un risque qu'on va appeler un risque familial, c'est-à-dire que si la maladie existe dans la famille, notamment dans la famille proche, eh bien, le risque que vous avez, vous, de développer cette même maladie est augmenté par rapport à la population générale. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est dû à des facteurs d'environnement ou à des facteurs génétiques? Comme j'ai l'habitude de citer, il y a des familles telles que la famille Rothschild, où on est banquier dans la famille, ça ne veut peut-être pas dire qu'il y a un gène de la banque. Donc c'est toujours la question, qu'est-ce qui est génétique, qu'est-ce qui est environnement, et qu'est-ce qui est environnement, interaction gène-environnement. Eh bien, pour ça, on a une technique, on compare ce qu'on appelle la récurrence d'une maladie entre des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Parce qu'effectivement, les vrais jumeaux sont génétiquement 100% identiques, les faux jumeaux ne sont que 50% identiques par rapport aux variations, disons. Et donc, par contre, les vrais jumeaux ou les faux jumeaux sont nés en même temps dans la même famille, donc en principe partagent le même environnement. Donc on contrôle l'environnement entre des jumeaux, et en tout cas au début. Par contre, l'identité génétique est totale chez les vrais jumeaux, et puis c'est comme des frères ou des frères et sœurs pour des faux jumeaux. Eh bien, en faisant ça, on s'aperçoit que, par exemple, ici, je vais regarder pour des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la concordance, si un jumeau, un faux jumeau, a la maladie, l'autre, la probabilité qu'il l'ait aussi, n'est que de 10%, alors que chez les vrais jumeaux, la concordance est de 40 à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire, cette concordance? Que la génétique est importante, mais qu'elle prédit pas tout. Parce que si la génétique prédisait tout, la concordance devrait être 100%. Hein, si tout était dans les gènes pour la polyarthrite rhumatoïde, si l'un a, l'autre qui est génétiquement identique devrait l'avoir aussi. Donc le fait que ça soit plus élevé que les faux jumeaux indique qu'il y a effectivement un facteur génétique important, mais que ce facteur génétique ne décide pas de tout. Et là, par exemple, on verra, ben on va regarder par exemple pour des maladies telles que la schizophrénie, ici, bon, la récurrence, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, disons, chez les faux jumeaux sera aux alentours de 20%, et elle sera de 45-50 chez les vrais jumeaux. Donc là aussi, on voit un effet génétique, mais alors une chose qui est intéressante, on y reviendra peut-être rapidement après, pour l'autisme, la concordance entre les faux jumeaux est assez faible, et entre les vrais jumeaux, elle est apparemment très forte. Et ça a suggéré qu'il y avait peut-être des mécanismes génétiques un peu particuliers pour l'autisme, et j'y reviendrai. Alors, je vais peut-être passer rapidement, parce que j'ai un petit problème, je mets toujours trop de dia. Et je suis trop bavard. Comment identifier les gènes de prédisposition et les variants à risque? Grossièrement, il y avait, jusqu'à il y a quelques années, deux stratégies principales. L'une, qu'on appelait les études d'association, où on comparait des variations génétiques, la fréquence de variations génétiques, dans des études qu'on appelle cas témoins, c'est-à-dire la fréquence chez des malades et la fréquence chez des bien portants. Et on se disait, si une variation génétique donnée a une fréquence plus importante, nettement plus importante, chez les malades que chez les bien portants, c'est que probablement, soit cette variation elle-même, soit plus généralement dans l'environnement du gène, il y a effectivement des variations qui prédisposent à la maladie. Le problème de ces études dites d'association, cas témoin, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait la faire que sur quelques dizaines de variants, quelques centaines de variants, et donc que sur des gènes candidats. C'est-à-dire qu'on faisait des hypothèses fonctionnelles, par exemple, je ne sais pas, moi, pour le diabète, le gène insuline ou le gène du récepteur de l'insuline vont être des gènes candidats, et on va tester une hypothèse. Si on est dans la schizophrénie, on va se dire, tiens, la schizophrénie, on traite ça avec des médicaments qui ont pour cible la dopamine, les récepteurs dopamine, ou la sérotonine, les récepteurs sérotonine. Donc, tout ce qui touche à la dopamine ou la sérotonine seront des gènes candidats, et on va tester, effectivement, les enzymes de synthèse de la dopamine, les récepteurs de la dopamine, les transporteurs de la dopamine. C'est des gènes candidats. Mais, évidemment, le problème, c'est que finalement, vous partez d'hypothèses, donc éventuellement, vous allez vérifier une hypothèse, mais vous n'allez pas trouver des choses que vous n'attendiez pas du tout. Donc, l'autre technique consistait à prendre des familles, et non plus des cas individuels, des familles où il y a plusieurs atteints, et ça, c'est pas si facile que ça pour des maladies communes, bien qu'elles soient communes, mais d'avoir des familles où il y a plusieurs atteints, c'est pas si fréquent quand même que ça, et faire ce qu'on appelle une analyse de liaison qui permet de balayer l'ensemble du génome. Mais le problème de ces études, c'est que ça permettait de balayer l'ensemble du génome, mais ensuite on localisait dans une région où il y avait quelquefois plusieurs centaines de gènes, en disant voilà, dans cette région il y a quelque chose, mais où est-ce qu'on va trouver le gène qui est vraiment impliqué? Et c'était en fait pas très évident. Et ça, depuis 2005, ça a beaucoup changé, parce que maintenant on peut faire ces études d'association sur l'ensemble du génome, et donc on n'est plus dépendant d'une hypothèse de travail a priori, on peut vraiment faire l'ensemble du génome. Et ça, j'y reviendrai, c'est parce qu'il y a eu une explosion méthodologique, grâce notamment aux puces à ADN, qui, là où ça demandait beaucoup de travail de tester chez 100 ou 200 patients 10 polymorphismes, 10 variations, maintenant on peut tester si on a les sous, et si on a la cohorte de patients, on peut tester 1000, 2000, 3000 patients pour 500 000 polymorphismes. Donc là, ça a été une révolution qui permet maintenant d'analyser sur l'ensemble du génome sans avoir à faire d'hypothèse a priori. Alors évidemment, pour ça, il faut d'abord réunir des cohortes de malades et des cohortes de malades bien étudiées, bien suivies cliniquement. Et c'est pour ça qu'il y a eu des appels, évidemment, à rejoindre pour les patients et leurs familles ce type d'études. Alors, juste un exemple quand même, parce que ces études d'association, elles ont commencé dans les années 70, et notamment avec les travaux de Jean Dosset, puisqu'on s'était aperçu, au départ, un peu par hasard, que ce qu'on appelle le locus HLA, qui est un locus qui est impliqué dans les réponses, dans le contrôle des réponses immunologiques, et qui est un locus où il y a une énorme variabilité, c'est une des régions les plus variables dans le génome humain, eh bien, on avait pu trouver que certains allèles HLA pouvaient être des facteurs quelquefois très forts de prédisposition à la spondylarthrite ankylosante, au psoriasis, à l'hémochromatose, à la sclérose en plaques, au diabète insulinodépendant. Et ça, ça a été extrêmement important, parce que dans certains cas, l'explication, c'est qu'en fait, ces maladies étaient des maladies auto-immunes, et c'était vraiment des variations au niveau de ces gènes HLA qui étaient responsables d'une sensibilité aux maladies auto-immunes différentes selon les cas, ce qui faisait que ce n'était pas toujours les mêmes allèles qui étaient impliqués dans le diabète, ou dans la sclérose en plaques, ou dans le psoriasis, ou dans la spondylarthrite ankylosante. Mais dans d'autres cas, il s'agissait simplement qu'il y avait un gène qui n'avait rien à voir avec l'immunité, mais qui se trouvait dans la même région, par exemple l'hémochromatose, c'est le cas. Le gène hémochromatose était présent dans cette région sans avoir, s'il ne s'agit pas d'une maladie auto-immune. Un exemple quand même que je vais vous présenter parce que je le trouve particulièrement intéressant et puis il montre comment par ce type d'études on finit par trouver des choses extrêmement intéressantes. Eh bien, la narcolepsie, qui est une maladie qui n'est pas, comme certains pourraient le craindre, quand vous avez un conférencier qui est un peu trop long et un peu embêtant et vous commencez à piquer du nez et à vous endormir, la narcolepsie, c'est quand le conférencier, en faisant sa conférence, s'endort. Vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Bon, c'est quelque chose d'assez rare. Et c'était là où il y avait l'association la plus forte avec HLA. Quasiment tous les narcoleptiques avaient un certain variant HLA au niveau des gènes DR et des QB1. Et c'était quasiment 100%. Et là, on avait du mal à comprendre. La narcolepsie, ça n'avait pas vraiment l'air d'une maladie auto-immune. Et les gens pensaient qu'il doit y avoir un gène de contrôle du sommeil qui se trouve dans la région HLA. Et c'est ça qu'on va trouver. Et en fait, ce qui a été trouvé, finalement, c'est à partir d'un modèle de chien narcoleptique qui n'était absolument pas lié à HLA, a été trouvé le gène, et on s'est aperçu que c'était un récepteur pour un peptide de l'hypothalamus, qui est le récepteur hypocrétine ou orexine. Et la même année, en faisant une souris knock-out, en inactivant le gène de ce peptide, eh bien, on s'était aperçu aussi que ces souris étaient narcoleptiques. Mais tout ça n'avait toujours aucun rapport avec HLA. Eh bien, quel était le rapport avec HLA? Eh bien, en fait, il s'agissait bien d'une maladie auto-immune, mais une maladie auto-immune qui touchait sélectivement les neurones qui synthétisent l'hypocrétine. Exactement, d'ailleurs, comme pour le diabète insulino-dépendant, l'auto-immunité est dirigée contre les cellules bêta des îlots de Langerhans dans le pancréas. C'est ces cellules-là qui meurent, pas les autres. Eh bien, finalement, la narcolepsie chez l'humain est liée effectivement au fait qu'il y a une auto-immunité qui touche sélectivement des neurones à hypocrétine. Et l'intérêt, d'ailleurs, c'est que maintenant, il y a une compagnie pharmaceutique, Actelion, qui est en train de développer des médicaments dont ils espèrent qu'ils seront utiles pour les troubles du sommeil, qui sont basés effectivement sur ces récepteurs hypocrétines. Donc ça, c'est juste une petite histoire. J'en ai encore pour 20 minutes, même pas. Hein. Oula. Bon. Alors, juste avant, à la période préhistorique pour ce type d'études, qui est 1993, là, des études de type liaison ont permis pour la première fois d'identifier pour une maladie commune, dans ce cas la maladie d'Alzheimer, un gène dont les variations, dont une des variations prédisposait de manière importante à la maladie d'Alzheimer, et c'était un gène totalement inattendu. C'était un transporteur de cholestérol. Personne n'aurait jamais pensé à dire, tiens, on va tester ce gène, un transporteur dans le cholestérol dans la maladie d'Alzheimer, il n'y avait aucune raison de le faire. Et ça, c'est parce que, effectivement, les gens ont fait une étude génome entier, dans ce cas-là, une étude de liaison, que ça leur a donné l'idée d'aller voir ce gène. Et ça, c'était un résultat très important, d'abord parce que c'est un gène qui a trois allèles, trois formes, la forme epsilon 3, epsilon la plus fréquente, epsilon 4 et epsilon 2, et on s'est aperçu que la forme epsilon 4, qui est quand même présente, au moins une copie, dans 20% de la population, eh bien, quand on a epsilon 4, un allèle, le risque de maladie d'Alzheimer est multiplié par environ 2,5 à 3. Quand on est homozygote, c'est-à-dire qu'on a deux allèles E4, le risque est multiplié par entre 6 et 8. Et par contre, la forme E2, au contraire, protège contre la maladie d'Alzheimer. Les gens qui ont un allèle E2 ont à peu près deux fois moins de risque d'avoir une maladie d'Alzheimer que la population générale. Ceci dit, c'est un effet extrêmement important dans la maladie d'Alzheimer. Mais même les homozygotes, ceux qui ont deux formes E4, ne vont pas systématiquement avoir une maladie d'Alzheimer. Probablement 50 ou 60%, c'est très important si vous voulez, mais c'est pas systématique. Et d'autre part, un tiers des personnes qui vont développer une maladie d'Alzheimer, non pas d'allèle APOE4. Donc, si vous voulez, c'est un effet très important, mais ça n'est pas un effet qui prédit au niveau individuel. Et c'est pour ça que, finalement, à l'heure actuelle, en tout cas en France, on estime que le test APOE4 n'a pas d'intérêt comme test prédictif, n'a pas d'intérêt même comme test diagnostique, puisque on peut ne pas être APOE4 et avoir quand même la maladie d'Alzheimer. Par contre, c'est extrêmement important comme mécanisme de la maladie d'Alzheimer, et à l'heure actuelle, il y a des choses extrêmement intéressantes, il vient de paraître un article, qui suggère un mécanisme par lequel APOE4 pourrait agir, et qui peut-être suggère, en tout cas par rapport à un modèle souris, peut-être des possibilités de pistes thérapeutiques. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important parce que c'était quelque chose d'inattendu et qui était visiblement très important pour la maladie d'Alzheimer. C'est très important pour les études cliniques, par exemple, de savoir est-ce qu'il y a finalement différentes formes de maladie d'Alzheimer, celle où APOE4 est impliqué, celle où APOE4 n'est pas impliqué, sont peut-être des mécanismes légèrement différents. Mais ça n'a pas, pour le moment, on estime en tout cas, en France, aux États-Unis, c'est peut-être moins sûr, qu'il n'y a pas d'intérêt, en tout cas pour la personne, à faire un test prédictif d'APOE4. Bon, je crois que je vais passer... Alors, il y a eu une période, si vous voulez, où il y avait eu beaucoup d'analyses d'association avec des gènes candidats, qui étaient des analyses souvent très contradictoires, une énorme littérature, souvent très contradictoire, et finalement, qui déconsidérait un peu tout ce genre d'approche, parce qu'on se disait, finalement, il y a des papiers qui sont publiés, et puis le mois après, il y a des papiers très contradictoires. Et finalement, c'est vraiment parce que la méthodologie a permis de commencer à faire les choses sur des plus grands nombres de patients et avec plus de polymorphisme qu'on a commencé à avoir des choses beaucoup plus solides. Et notamment, par exemple, je vais peut-être revenir en Islande, par exemple, une compagnie qui s'appelle Decode, dirigée par un chercheur islandais extrêmement brillant, a décidé finalement de prendre comme objet d'étude à peu près l'ensemble de la population islandaise. Ça fait quelques discussions au Parlement islandais. Et toute cette population, on a à la fois, on connaît toutes leurs relations familiales, puisqu'il y a des arbres généalogiques extrêmement précis. Les données généalogiques en Islande, comme il n'y a pas eu de guerre sur le territoire islandais, ils ont gardé toutes leurs données généalogiques depuis plus de 1000 ans. Ils ont d'excellentes données médicales sur ces familles depuis plus de 100 ans. Et donc, avec ça, ils ont commencé à faire tourner la manivelle et ont commencé à identifier effectivement un gène de prédisposition à la schizophrénie qui était probablement le premier gène, un des premiers, ou des premiers variants, qui était vraiment, qui a été répliqué, donc qui était des choses solides. Mais, quel est le risque relatif pour ce variant de ce gène réguline ? 2, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le risque, on estime que le risque d'avoir une schizophrénie est à peu près 1%. Si vous avez ce variant, ça passe à 2%. Nous ne sommes pas encore dans du prédictif. C'est très intéressant pour se dire, tiens, c'est un mécanisme qui est impliqué dans la schizophrénie. Mais dire à quelqu'un, tiens, vous avez ça, alors votre risque, au lieu d'être 1%, il est 2%, n'a pas un intérêt absolument majeur. Et donc, là où les choses ont été transformées, c'est d'une part par un grand projet international, le projet HapMap, sans doute Marc Latrop en a parlé, ou Daniel Cohen, qui a été de faire un inventaire quasi systématique sur le génome des variants génétiques, et qui permettait de faire un travail beaucoup plus, ensuite quand on parlait de maladie, de faire un travail beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc dans ce projet HapMap, qui est un projet où il y a eu les Anglais, les Américains, les Chinois, les Français, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour participer au projet HapMap, il y a eu à peu près maintenant, je crois, 6 millions de variants qui ont été testés dans la population normale, qui permet vraiment d'avoir des données de base sur le génome qui permettent ensuite d'aller voir les maladies. Et puis, d'autre part, les technologies de puces à ADN par des films tels que Affymetrix et Ulimina, pas de publicité, qui ont permis d'abord de tester chez une personne 100 000 variations, ensuite 300 000, 500 000, maintenant 1 million, et donc de couvrir vraiment l'ensemble du génome. C'est pas donné, ça coûte à peu près entre 500 et 800 euros par patient. Donc si vous faites une étude avec 1 000 ou 2 000 patients et 1 000 ou 2 000 contrôles, vous voyez vite le prix, mais c'est extrêmement puissant. Et la première, je dirais, étude à montrer cette puissance, bien que c'était là qu'avec des puces qui permettaient d'analyser 100 000 variations, c'était il y a longtemps, en 2005, eh bien, qui montrait un gène majeur pour une maladie où, jusque-là, la génétique n'était pas tellement au premier plan. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une cause importante de cécité, d'abord partielle et puis chez les personnes âgées, puisque c'est quelque chose dont la fréquence augmente avec l'âge et qui finit par atteindre à peu près, je pense, 15% des personnes de plus de 75 ans. Eh bien, pour cette maladie dont on aurait pu se dire, bon, ben voilà, c'est une maladie liée à l'âge, il n'y a pas beaucoup de génétique là-dedans, eh bien, grâce à ces études d'association génome entier, a été identifié un gène, lui aussi, qu'on n'attendait pas, un gène qui est impliqué dans des mécanismes de lutte contre les bactéries, des mécanismes d'inflammation, qui est gène du facteur de complément. Et ça, par contre, dans le même numéro de la revue Science, il y avait 3 autres papiers qui confirmaient que ce gène était un gène important et que pour les porteurs de ce gène, le risque d'avoir une dégénérescence maculaire liée à l'âge, si on a juste un allèle, c'est multiplié, je crois, par 2 ou 2,5. Si on a 2, c'est multiplié par 4 ou 5. Simplement, cet allèle, il est très fréquent dans la population. Donc là aussi, ça veut dire que finalement, une bonne partie de la population a une prédisposition, effectivement, à des chances maculaires liées à l'âge. Et puis, ça a montré le pouvoir de ces études, et ça a commencé pour la maladie de Crohn, des études, donc, Genome-Wide Association Study. Ça, c'est devenu the buzzword, comme on dit, ce que tout le monde doit faire, c'est les études d'association genome-wide sur l'ensemble du génome. Pour la maladie de Crohn, pour le diabète de type 2, donc là, un papier où a participé de manière extrêmement importante une équipe française en collaboration avec des équipes canadiennes. Et donc, c'est un article qui a fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, il y avait 7 gènes qui avaient des variants prédisposant au diabète de type 2. Je vais m'y attarder un petit peu sur cette étude parce qu'il y a 2 choses intéressantes. C'est peut-être difficile à voir ici, mais K, c'est la fréquence d'allèles chez les patients. Contrôle, c'est la fréquence des allèles chez les contrôles. Et vous voyez que pour ceux qui sont en bleu, c'est l'allèle est plus fréquent, ce qu'on appelle l'allèle mineur, est plus fréquent chez les contrôles que chez les K. Donc cet allèle mineur, il est plutôt protecteur. Mais si l'allèle mineur est protecteur, ça veut dire que l'allèle majeur, puisque à chaque fois, quand vous avez une variation, vous avez les gens qui portent l'allèle le moins fréquent, les gens qui portent l'allèle le plus fréquent. Eh bien donc, pour tous les gènes en bleu, l'allèle qui prédispose au diabète, c'est celui qui est le plus fréquent dans la population. Ça veut dire que, finalement, en tout cas pour ces gènes-là, ce qui est normal, c'est d'être prédisposé au diabète de type 2. Et l'explication probable, donc sur 3 et 5 gènes identifiés, effectivement, c'était l'allèle le plus fréquent qui est l'allèle de prédisposition. Et on a encore un autre test. On peut aller regarder chez notre cousin le chimpanzé. Quel allèle il a ? Celui qui prédispose au diabète de type 2 quel est l'allèle ancestral? Et on s'aperçoit que, en fait, dans 7 des 8 variations qui ont été identifiées, l'allèle à risque de diabète de type 2 et l'allèle ancestral. C'est celui qui existait chez nos ancêtres et notamment aussi chez le chimpanzé. Eh bien, comment expliquer ça? Eh bien, l'explication, c'est que probablement ceux qui prédisposent à l'heure actuelle au diabète de type 2 dans une société où on a beaucoup trop à manger et où on ne bouge plus, dans les milliers d'années où les êtres humains étaient dans des conditions où il n'y avait pas toujours à manger, eh bien ça veut dire que quand on avait tout d'un coup quelque chose à manger parce qu'on avait fait une bonne chasse, etc., ben on mangeait beaucoup et on avait intérêt à garder ça sous forme, par exemple, de graisse, parce que on n'était pas sûr que pendant les 15 jours suivants, les 3 semaines suivantes, on allait beaucoup manger. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la thrifty gene hypothesis. C'est des gènes qui étaient adaptés à des moments où on n'avait pas grand-chose à manger. Mais maintenant qu'on a beaucoup trop à manger et qu'en plus on bouge pas, eh bien ces gènes deviennent des gènes de prédisposition au diabète ou à l'obésité. Alors, autre chose pour laquelle je mentionne cet article, parce que comme il y avait un chercheur français très brillant qui avait participé à ça, les journaux français, la radio en ont parlé, et la plupart, moi j'ai appris ça sur France Info, on disait ça va permettre un dépistage des personnes à risque d'avoir un diabète de type 2. Or le problème, c'est que la plupart de ces variations 1 n'ont pas un effet très important, mais elles sont importantes parce qu'elles sont fréquentes dans la population. Et dans le papier, ce qu'il disait, que c'est des résultats très intéressants pour comprendre la physiopathologie du diabète de type 2. Ça nous indique des pistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le diabète de type 2. Mais ils disent, il y a une des choses qu'on ne pourra pas faire avec ça, c'est la contribution au risque familial et au risque individuel de ces allèles est relativement faible. Et donc, ce qu'on ne peut pas faire avec ça, c'est de faire du prédictif. C'est très intéressant au niveau de la population. Alors, si vous voulez, il y a quelque chose. Ils ont dit, voilà, ça explique 70% du risque génétique, mais du risque génétique au niveau de la population. Parce qu'effectivement, si vous avez des allèles qui sont les plus fréquents dans la population, et même si ces allèles n'augmentent le risque que d'un facteur de 1,2 ou 1,3, on peut se dire, si ces allèles n'existaient pas, c'est comme ça qu'on définit, il y aurait moins de diabète de type 2. D'accord. Mais c'est quelque chose d'un peu... Et je continue, il faudra bientôt que j'arrête, par exemple, le Wellcome Trust a commencé à faire, sur 7 maladies différentes, des études portant sur 14 000 cas, c'est-à-dire 2 000 par maladie, et pour faire des économies, les contrôles étaient les mêmes pour les sept maladies. Donc ces maladies, la dépression bipolaire, maladie coronarienne, maladie de Crohn, hypertension, polyarthrite rhumatoïde, diabète de type 1, insuline dépendant, ou diabète de type 2, qui ne dépend pas de l'insuline. Et alors, il suffit de voir si ça marchait. En fait, ces graphiques vous montrent, est-ce qu'il y a un endroit dans le génome, si c'est chromosome par chromosome, où on trouve un signal extrêmement statistiquement significatif. Et plus significatif, plus c'est haut. Et vous voyez, par exemple, pour maladie coronarienne, il y a un signal, un seul, au niveau du chromosome 9. Les autres sont pas très... Pour la maladie de Crohn, il y a plein de signaux, et donc ça a permis d'identifier 6 ou 7 gènes de prédisposition à la maladie de Crohn. Et pour la dépression et pour l'hypertension, eh bien, Anne Masseran, on ne voit rien venir. Qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de facteur génétique de la... l'hypertension, qu'il n'y a pas de facteur génétique, mais que par ce type d'approche, eh bien, on n'arrive pas à les voir. Il y a des explications pour ça, ça serait trop long à aller, mais peut-être que, au lieu de variants relativement fréquents dans la population et qui ont des effets faibles, peut-être que c'est des variants rares dans la population ayant des effets forts, mais on ne va pas les voir par ce type d'approche. Une des choses, effectivement, ce type d'approche est limité sur ce qu'il peut faire. Le reste, ça serait effectivement, donc je vais passer rapidement. Juste une chose. Par exemple, donc ça a permis, ce type d'étude, pour le diabète de type 1, d'identifier toute une série de nouveaux gènes de prédisposition, de nouveaux variants de prédisposition. Mais il y en avait un qui était déjà connu, c'était HLA. Eh bien, HLA, c'est le premier. C'est celui qui a de loin l'effet le plus important. Tous les autres, ils ont des effets beaucoup plus faibles. De nouveau, le message, ces effets beaucoup plus faibles, ça peut être quand même extrêmement intéressant du point de vue compréhension des mécanismes de la maladie, mais du point de vue prédictif, c'est pas tout à fait aussi évident que ça. Bon, je passe. Alors, je vais donner justement cette histoire de... dégénérescence maculaire liée à l'âge, cette forme de cécité. Parce que finalement, il y a eu ce premier gène de complément, et puis un groupe allemand a trouvé un deuxième gène dont on ne comprend absolument pas quelle est la fonction, mais c'est d'autant plus intéressant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de complètement inconnu. Et ces deux gènes ont chacun un effet important. Ils ont chacun des variants qui sont fréquents dans la population. Et donc, deux gènes. Et pour le variant à risque, on peut avoir une copie ou on peut avoir deux copies de ce variant à risque. Ça veut dire qu'il y a des gens... Je ne sais pas comment j'arrive à... Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, c'est ça? Oui. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont... sur les quatre allèles, deux pour chaque gène, ils ont les allèles qui ne prédisposent pas. Donc ces gens vont avoir le risque 1. C'est 23% de la population ont, on va dire, le risque 1. Il y a 40% de la population qui ont un allèle à risque. Cela, le risque est multiplié par à peu près 2, donc ils ont un risque à peu près 2 à 3. Les gens qui ont deux allèles à risque, c'est ceux qui sont en vert, eh bien, c'est à peu près 8 plus 16 plus, ça fait 26% de la population. Eux, ils ont un risque multiplié par 6 à 7 par rapport à ceux qui n'ont pas du tout de risque. Et ainsi de suite, quand vous avez 3 allèles à risque, là, votre risque est multiplié par 20, ça concerne 6% de la population. Et maintenant, quand vous avez les 4 allèles à risque, c'est moins d'un pour cent de la population, mais les risques sont multipliés peut-être par 50. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être prédisposé à la dégénérescence maculaire liée à l'âge? C'est quand vous avez 2 allèles à risque, ou quand vous en avez 3, ou quand vous avez 4. Quand vous avez 4, effectivement, vous avez un risque très élevé. Mais c'est une minorité des gens qui développeront une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ceux qui ont 4 allèles à risque, c'est 0,3% de la population, mais ça n'est que 7% des malades. Donc, si vous voulez, quand on va dire prédictif, mais c'est où est-ce qu'on met le seuil où on se dit « Ok, là, maintenant, il faut faire quelque chose. » Si on le met très élevé, c'est-à-dire vraiment ceux qui ont un risque très élevé, effectivement, ceux-là ont vraiment un risque important, mais ça n'est qu'une minorité des malades. Si on le met, par exemple, à 2, eh bien, on a... près de 60% de la population qui a 2 ou plus allèles à risque. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va leur faire à ces gens-là? Un traitement préventif? Le problème, c'est que beaucoup de ces gens-là ne vont pas développer de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et je donnerai un exemple de thérapeutique qui finalement... était donné sur la base d'une prédisposition génétique avant que les gens ne soient malades, c'est l'œstrogénothérapie substitutive. L'œstrogénothérapie substitutive, c'est quelque chose qui était conseillé pour les femmes après la ménopause, et notamment, on se disait que ça prévenait les risques d'ostéoporose. Sauf qu'on s'est aperçu que quand vous donnez pendant longtemps un médicament à des gens pour prévenir un certain risque, est-ce que ça ne crée pas, le médicament en lui-même, un autre risque? Et c'est là qu'on s'est aperçu, oui, mais ça augmente le risque de cancer du sein. Et la question s'est posée, alors On a dit, ah oui, mais c'est pour certaines doses. C'est les doses américaines. En France, on donne des doses moins. Donc, est-ce que ce qui est vrai aux États-Unis est aussi vrai en France? On n'en sait rien. Il faudrait faire l'étude. Mais la chose qu'on se retrouve, voilà, d'accord. OK, on a quelque chose qui prévient l'ostéoporose, mais qui augmente un peu, pas énormément, mais un peu le risque de cancer du sein. Qu'est-ce qui est bien? C'est pas évident. Donc, si vous voulez faire des traitements, disons, préventifs, ça veut dire qu'on traite plus de personnes pendant plus longtemps. L'industrie pharmaceutique sera certainement en principe contente, puisqu'au lieu de traiter que les malades, vous traitez ceux qui peut-être deviendront malades avant qu'ils deviennent malades. Sauf que, quand vous traitez des gens bien portants, on ne tolère pas les événements indésirables. Parce que si on dit, ah oui, mais finalement, on lui a donné un médicament pour prévenir quelque chose et on lui a donné autre chose, c'est pas très bon. Donc, ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que c'est complexe. Ça veut dire qu'il faudra faire des études cliniques pour savoir vraiment est-ce que, par exemple, on pourra faire quelque chose. Et en fait, et je crois que je vais bientôt être obligé de m'arrêter, ça, c'est un autre exemple. Il y a un papier très récent sur le cancer de la prostate. 7 gènes de prédisposition au cancer de la prostate. Eh bien, quand on prend l'ensemble de ces 7 gènes, cette belle courbe vient de ce papier qui vient de paraître, la différence de risque entre les 10% de la population les moins à risque et les 10% de la population les plus à risque, c'est un facteur de 2,7 fois. Qu'est-ce que vous en faites de ce facteur de 2,7 fois du point de vue prédictif? Et là aussi, l'intérêt est évident. C'est intéressant pour des mécanismes de cancérogénèse de la prostate et de se dire que ces mécanismes-là deviennent des cibles thérapeutiques. Mais c'est pas, en tout cas, moi je pense, très intéressant du point de vue, vraiment, ça ne prédictif. C'est pas suffisamment différent pour vraiment être prédictif. Autre exemple, qui est connu d'ailleurs depuis longtemps, pour les prédispositions aux thromboses veineuses. Il y a un variant qui est présent dans 5% de la population, facteur 5 Leiden, qui augmente le risque d'un facteur 5. Un variant dans le facteur 2 qui augmente aussi le risque d'un facteur de 4 qui est présent dans 2% de la population. Quand les deux sont présents ensemble, c'est évidemment un plus petit pourcentage de la population, ça augmente le facteur de 20. Et il y a une interaction avec l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est la pilule, par exemple. Ça peut être aussi la cigarette, mais là, j'ai des données pour la pilule. Donc, voyez, si vous n'avez pas de facteur 5 Leiden et que vous prenez pas la pilule, le risque, c'est 1. Si vous avez le facteur oral contraceptif, si vous prenez des contraceptifs, la pilule, risque multiplié par 4. Si vous ne prenez pas la pilule, mais que vous avez le facteur 5 Leiden, risque multiplié par 7. Et si vous avez les deux, risque multiplié par 35. Alors on se dit, oula, 35 c'est beaucoup. Donc est-ce que ça veut dire que à chaque jeune femme qui prend la pilule, il faut tester le facteur 5 Leiden? Et si elle l'a, qu'est-ce qu'il faut? Lui interdire la pilule. Seulement, même si ça a été multiplié par 35, le risque, il reste encore, je crois, de 30 pour 10 000 d'avoir un événement de thrombose veineuse par an. Ça veut dire que même si une jeune femme qui prend la pilule et qui a un facteur 5 Leiden a un risque 35 fois plus élevé, ce risque individuellement, il n'est pas encore tellement important que ça. Parce que, quelles sont les solutions? Soit dire, bon, vous arrêtez la pilule. À ce moment-là, il faut proposer autre chose. Est-ce que autre chose est acceptable? C'est pas si évident que ça. Ou alors on va dire, ah oui, mais à vous, vous avez deux facteurs de risque, donc on va vous faire une thérapeutique anticoagulante préventive. Sauf que les thérapeutiques anticoagulantes préventives, c'est vraiment dans les cas où on a absolument besoin, parce qu'il y a les dangers d'hémorragie. Donc finalement, si vous voulez, là aussi, on s'aperçoit qu'on ne sait pas trop que faire de ces données. C'est intéressant, mais il faut des études cliniques pour savoir vraiment comment est-ce qu'on peut changer l'approche médicale en fonction de ses prédispositions, de leur interaction avec l'environnement. Voilà. Alors, je voulais dire juste, vous voyez, j'avais préparé trois fois trop de diapositives. Peut-être que M. Michaud m'invitera pour dans 5 ans, le reste. Là, jusqu'à présent, on a parlé de variants qui sont assez fréquents dans la population et qui ont un effet, finalement, quand ils ont un effet de 2 ou 3 fois, c'est déjà énorme. Souvent, ils ont un effet que 1,5 fois dans la multiplication du risque. Mais ce qu'on sait aussi, c'est l'exemple des maladies monogéniques le montre, c'est qu'il peut avoir des variants rares, mais qui ont des effets beaucoup plus forts sur le risque. Sauf que c'est beaucoup plus difficile à identifier. Et donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, notamment peut-être par les techniques de séquençage qui se sont énormément améliorées dans l'an qui vient de se passer, on a des nouvelles machines, peut-être qu'on va pouvoir commencer à trouver ces variants rares qui ont un effet beaucoup plus important. Et notamment, je veux illustrer ici, par exemple, dans l'autisme, où il semble effectivement, ce n'est pas les variants fréquents dans la population qui prédisposent à l'autisme, mais c'est probablement des événements rares, et probablement même des événements rares, des mutations qui ne sont pas présentes chez les parents et qui sont survenues de novo. Le problème de ces événements rares, c'est que effectivement, au niveau de la population, chacun aura des choses un peu particulières et que ça va être très difficile. Il y aura toute une recherche à faire pour essayer de savoir quel est le variant qui est vraiment pathologiquement important et quel est celui qui ne l'est pas tellement. Et ça, ça va demander aussi beaucoup de travail. Or, pour l'individu, c'est de nouveau la même chose. Au niveau de la population, vous faites une prédiction, c'est parfait. Mais l'individu, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que je vais être malade ou est-ce que je ne vais pas être malade? Est-ce que c'est ça qui me rend malade ou est-ce que c'est pas ça qui me rend malade? Donc c'est là que c'est compliqué. Et je terminerai, juste en disant, voilà, que effectivement, il faut se poser la question, ces gènes de prédisposition, je crois que c'est extrêmement important pour comprendre les mécanismes des maladies, pour essayer de trouver des pistes thérapeutiques, de nouvelles pistes thérapeutiques. C'est vraiment absolument passionnant. Est-ce que ça va être utile en clinique? Pour ça, il faudra valider à l'heure actuelle, je dirais pour la quasi-totalité de ces variations, il n'y a pas encore d'intérêt clinique, bien que certaines boîtes étrangères maintenant vous proposent sur le web pour $1,000 de vous tester tous vos variants de prédisposition et de vous donner le résultat. Sauf que, en fait, finalement, peut-être, un collègue appelait ça recreational genetics. Vous avez envie de savoir un petit peu, mais du point de vue médical, du point de vue lifestyle. Et alors, certains disent oui, mais si vous êtes à risque, par exemple, de diabète de type 2, peut-être que vous allez faire plus attention, faire plus de sport, manger moins, une nourriture plus équilibrée. Mais de toute façon, c'est des messages qu'on fait passer dans la population générale, parce que de toute façon, qu'on soit prédisposé ou non, c'est de toute façon mieux d'avoir de l'activité, etc. C'est pas uniquement pour les gens prédisposés. Et je terminerai juste, c'est un exemple non génétique. Ceux qui sont le plus à risque d'avoir des accidents de voiture, c'est les hommes, je crois, entre 20 et 35 ans. On pourrait dire, donc on va faire de la médecine personnalisée, on va faire des limitations de vitesse uniquement pour les conducteurs entre 20 et 35 ans. Mais comme disent, même la ménagère de 50 ans, elle a moins de risques, mais quand même, si elle roule trop vite, elle a quand même des risques augmentés. Donc, si on diminue chez tout le monde la vitesse, on aura un effet bénéfique, pas uniquement chez ceux qui sont le plus à risque. Donc, si vous voulez, j'aurais eu effectivement de quoi vous parler pendant encore 1 heure, ça c'est mon problème, je mets toujours trop de dia, mais je crois que du point de vue de la recherche, de la compréhension des maladies, c'est une recherche absolument passionnante. Moi, je me régale à lire les papiers, mais il faut faire attention. La médecine prédictive et la médecine personnalisée, c'est des mots qui, pour le moment, n'ont pas une très grande réalité, et que, avant qu'ils aient une réalité dans certains cas, et pas d'une manière générale, il faudra beaucoup de travail, beaucoup d'études cliniques, des études cliniques qui seront très chères. Donc, il y a encore beaucoup à attendre. Je vous remercie.
Alors, nous allons passer aux questions. Donc, sur la gauche, hein, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur. Vous avez parlé tout à
l'heure. S'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Vous avez parlé tout à l'heure des 7 gènes à risque dans le cancer de la prostate. J'aimerais savoir si vous avez fait une étude sur tous les malades actuels qui ont le cancer, ou une série de malades qui ont le cancer de la prostate, si on retrouve ces gènes à risque, systématiquement.
C'est les articles, je crois les premiers articles sur le cancer de la prostate vraiment sont sortis l'an dernier. Celui dont je vous parle est sorti il y a, je crois, un mois. Et je devais avoir, c'était sur quelque chose comme 1500 ou 2000 patients. Donc c'est des études importantes. De toute façon, dans ce domaine, tant que quand même des résultats n'ont pas été confirmés par d'autres, on a toujours, on prend un peu de précaution. Donc, si vous voulez, là, une fois qu'on a ça, je dirais que la question, ça va être après, est-ce que, par exemple, on peut voir des sous-populations? Est-ce que, par exemple, les gens qui ont des cancers agressifs, est-ce qu'on peut lier ça à certains variants ou la non-agressivité à d'autres variants? Est-ce qu'il y aura des conséquences sur la prise en charge thérapeutique? Pour le moment, je pense qu'on n'en est qu'au tout début de ces études. Je dirais que probablement ce qu'on peut se dire, c'est que d'une manière générale, les études cliniques maintenant qui vont se faire sur ces types de maladies devrait inclure la connaissance de ces variants, pas au départ pour différencier en disant voilà tel malade va être traité comme ci ou tel malade va être traité comme ça, mais pour se dire qu'au moins, pour que dans 3 ou 4 ans, on puisse savoir est-ce que éventuellement, en fonction de telle ou telle variation, il y a telle ou telle réponse thérapeutique qui est plus ou moins bonne, ou est-ce qu'il y a des cancers qui sont plus ou moins agressifs, et que éventuellement on doit moduler la prise en charge. Mais ça demandera d'énormes études qui vont être très chères, et des études notamment prospectives, si vous voulez, puisque à l'heure actuelle, c'est surtout de dire, voilà, entre patients qui ont un cancer de la prostate et personnes de la population normale. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vraiment que le début de ce type d'études. Oui. Monsieur. Oui.
Vous avez parlé d'une protection contre la maladie d'Alzheimer de certains gènes, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'on connaît le mécanisme par lequel il y a protection, et est-ce qu'il y a transmission héréditaire de cette protection?
Voilà, alors si vous voulez, dans ce gène qui est le gène ApoE, qui est un transporteur de cholestérol, qu'on appelle apolipoprotéine E, vous avez trois, dans la population normale, enfin dans la population, vous avez, ce gène existe sous trois formes qui différencient chacun par un ou deux lettres du code génétique. Vous avez la forme 2 qui est la plus rare, la forme 3 qui est la plus fréquente, et la forme 4 qui est intermédiaire, dit de fréquence intermédiaire, d'accord? Donc tout le monde va pouvoir être, puisqu'il a deux gènes ApoE, de 2 ou de 3 ou 3-3 ou 3-4 ou 4-4. 4, c'est celui qui prédispose à Alzheimer. 3, c'est le plus courant, on va dire que c'est celui qui est neutre, c'est le risque de la population moyenne, disons. Et 2, c'est celui qui diminue le risque. Il ne l'abolit pas complètement, il le diminue. Donc, si par exemple vous êtes 2-2, vous avez le risque probablement par rapport à ce gène-là, ce n'est pas le seul gène impliqué, mais enfin par rapport à ce gène-là, vous avez le risque le plus faible. Et comme vous êtes de deux, vous êtes sûr que vos enfants, ils auront au moins un de vos deux. D'accord ? Si votre épouse était de trois, eh ben peut-être que certains de vos enfants seront de deux, d'autres seront de trois. Donc si vous voulez, effectivement, puisque c'est des variants qui sont dans l'ADN, ils sont transmis selon les lois de Mendel, M-E-N-D-E-L, c'est pas moi. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui diminue le risque. Quand je dis c'est un allèle protecteur, c'est pas un allèle qui fait que les gens qui ont deux, il y a aucun Alzheimer. Simplement, le risque est plus faible.
Est-ce qu'on sait par quel mécanisme ?
Alors, ça a été découvert en 93. Ce que les gens se sont plutôt posés, c'est de savoir quel est le risque, pourquoi APOE4 prédispose. Enfin, c'est la même chose d'ailleurs. C'est en miroir. Et je dois dire qu'il y a eu beaucoup de choses relativement quelquefois contradictoires. Un des derniers papiers qui a l'air intéressant, là, qui vient de sortir, en fait, la maladie d'Alzheimer est liée, ça, on le sait, au fait qu'il y a eu un fragment d'une autre protéine qu'on appelle bêta-amyloïde qui s'accumule à l'extérieur d'ailleurs des neurones et qui forme ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. Et cette protéine de 42 acides aminés est toxique. Voilà. Et je viens de voir un papier qui suggère que le gène APOE en fait, permet de détruire plus facilement ce peptide amyloïde, mais que la version APOE4 est moins active que la version APOE3 ou peut-être APOE2. Donc, si vous voulez, parce que cette forme bêta-amyloïde, elle existe naturellement. Simplement, chez les patients avec maladie d'Alzheimer, elle va s'accumuler plus, et elle s'accumule plus parce que soit on en produit plus, soit on en détruit moins. Et donc, dans ce papier, ce qu'il suggère, c'est qu'en fait, c'est au niveau de la destruction que APOE interviendrait. Voilà. Mais il y a au moins, si vous faites ce qu'on appelle PubMed et que vous faites APOE Alzheimer, je suis sûr que vous aurez 500 ou 1000 articles qui essayent de comprendre, évidemment, quelle est la relation. Donc, c'est quelque chose de la recherche. C'est pas évident. Mais, disons, cet article avait l'air intéressant, publié dans une excellente revue sur le fait qu'il contrôlerait la dégradation de ce peptide amyloïde.
Je voulais savoir si tout ça n'est pas faussé finalement par le fait que les gens vivent de plus en plus vieux et que donc ils ont de plus en plus de chances de voir peut-être apparaître des maladies qui n'auraient pas existé et qui n'auraient pas pu voir apparaître il y a 100 ans.
Oui, non, c'est certain. Que c'est la même chose pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Comme c'est des maladies dont le risque augmente avec l'âge, c'est vrai que ça devient d'autant plus des problèmes de santé publique parce que les gens vivent plus vieux. Mais si vous voulez, dans le temps, moi quand j'ai fait médecine, probablement d'ailleurs c'était la même chose pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on disait avec l'âge, tout se dégrade, et puis il y a la démence, il y a la cécité, tout ça, c'est une espèce de vieillissement normal. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des mécanismes pathologiques, simplement des mécanismes qui mettent plus de temps. Dans le cerveau des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, il y a deux signes pathologiques très précis. C'est d'une part cette accumulation à l'extérieur des neurones de bêta-amyloïde, à l'intérieur des neurones d'une protéine qui s'appelle tau-phosphorylée, c'est légal. Et c'est très spécifique. Et ça ne se passe pas chez tout le monde. Simplement, comme c'est un mécanisme qui est lentement progressif, ça survient à un âge relativement avancé. Sauf qu'on sait, par exemple, que dans certains cas de mutation, justement dans ce gène qui est le précurseur de l'amyloïde, s'il y a des mutations qui font que cette protéine amyloïde est produite vraiment de manière beaucoup plus importante, c'est des gens qui ont une maladie d'Alzheimer à l'âge de 40 ans. Et alors à ce moment-là, monogénique, vraiment, qui est avec une hérédité dominante, 50% de risque à chaque génération. Donc, si vous voulez, et la même chose, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est vous avez des mécanismes pathologiques qui sont plus ou moins rapides ou plus ou moins importants et, selon les personnes, mais probablement aussi selon l'environnement. Par exemple, on sait que pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, en fait, peu le savent. La cigarette fumée augmente le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge par un facteur de 2. Donc, vous avez une interaction entre des facteurs de l'environnement et des facteurs génétiques. Mais ça n'est pas, si vous voulez, quelque chose de normal, parce que simplement, c'est des processus pathologiques lents et donc qui vont se retrouver plus dans la population âgée. Et effectivement, avec une population âgée de plus en plus importante, le nombre de personnes atteintes augmente. Par contre, là où il y a des effets de l'environnement qui sont évidents, la maladie de Crohn, qui, elle, survient à un âge plutôt jeune, hein, c'est souvent à l'adolescence ou chez le jeune adulte, on sait que dans tous les pays occidentaux, il y a eu une augmentation dans les 30 dernières années de la maladie de Crohn. Et là, on pense que c'est effectivement des aspects environnementaux. En fait, il y a la thèse hygiéniste. C'est comme on est trop propre, notre système immunitaire s'est pas habitué à lutter contre les bactéries. Il y a des anomalies des populations bactériennes. Et donc, c'est devenu une espèce de, si vous voulez, de maladie de civilisation. Mais dans un même environnement, il y a des prédispositions génétiques. Tout le monde ne fait pas une maladie de Crohn. Et il y a des gènes de prédisposition. Vous avez vu sur la diac que j'ai montré, il y a au moins 6 ou 7 gènes de prédisposition. Mais la fréquence de ces gènes n'a pas bougé entre il y a 30 ans et maintenant. Ce qui a changé, c'est notre hygiène. On est trop propre.
Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, des études de fait sur une maladie qu'on appelle les tremblements essentiels, qui est voisine du Parkinson? Et est-ce que le cerveau est touché? Est-ce que c'est transmissible aux enfants?
Parkinson, non. Énormément d'études sur Parkinson.
Tremblements essentiels, c'est différent.
Tremblements essentiels. Écoutez, de toute façon, à l'heure actuelle, toutes les maladies sont passées à la moulinette, y compris des maladies quelquefois où les gens se posaient la question, est-ce que c'est vraiment une maladie ou est-ce que c'est des gens qui se plaignent. Il y a une maladie qui s'appelle le restless leg syndrome, le syndrome des jambes en mouvement, etc. Et c'est des gens qui se plaignaient, qu'ils n'arrivaient pas à dormir parce que la nuit, ils ont toujours les jambes qui bougent. Et apparemment, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ça doit être encore un truc psychosomatique, etc. Et en fait, justement, les Islandais, là, ont identifié là, un gène qui a un effet très important, effectivement, sur, effectivement, de prédisposition au restless leg syndrome. Ce qui, d'une certaine manière, a presque validé ça comme une maladie. Parce que s'il y a un gène, c'est que ce n'est pas vraiment des gens qui se plaignent de quelque chose qui n'existe pas, parce que je crois qu'il y avait des médecins qui disaient « Ah, j'arrive pas à dormir parce que je bouge les pieds la nuit. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là » Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous répondre pour le tremblement essentiel, parce que la littérature, il suffit de regarder « Essential Tremor » et « Association Study », vous verrez. Mais si ça n'a pas encore été fait, ça sera fait. Le problème, si vous voulez, c'est de réunir, un, les cohortes de patients. Il faut que ça soit il faut pas mélanger du Parkinson avec il faut vraiment des corps de patients qui soient, pour avoir des résultats qui veuillent dire quelque chose, qui soient bien étudiés, où on ait un bon diagnostic. Et ensuite, il faut que l'équipe, en général, d'ailleurs c'est pas des équipes, c'est des réseaux de collaboration, parce que pour réunir 2000 patients, c'est pas une clinique qui réunit ça, c'est 10 cliniques, souvent internationales, etc. Ensuite, il faut avoir les sous pour faire l'étude, puisque 1000 patients multipliés par 600 euros, ça fait 600 000 euros. Il faut avoir quand même plus tout l'argent qui est nécessaire pour valider la cohorte, faire les études cliniques, etc. Donc, si vous voulez, c'est des choses, mais c'est en train de se faire.
On va prendre une dernière question.
Je parle. Oui, c'est une question qui est liée à la question précédente sur le rôle de l'environnement. C'est un peu une question, une remarque. Il me semble qu'il y a une augmentation des asthmes et que dans certains asthmes, le rôle de l'environnement semble déterminant, notamment certaines formes d'asthme professionnel où il n'y a pas a priori de facteurs génétiques toujours présents. Et deuxièmement, par exemple, aussi les bébés nageurs qui ont des problèmes suite à l'exposition au chlore. Donc, il semblerait qu'il y ait aussi une augmentation des asthmes chez des personnes vieillissantes, disons, sans qu'a priori, il y ait nécessairement un rôle génétique. Et puis, c'est vrai que l'asthme est aussi une maladie en augmentation, donc où l'hérédité n'est pas, la génétique n'est pas forcément suffisante pour l'expliquer. Voilà. Et deuxièmement, j'ai lu récemment dans la presse, donc ça confirme un peu, c'est un petit peu à côté de la conférence, j'ai lu sur des études anglaises et suédoises qu'il y avait une proportion plus, donc ça confirme le rôle de l'environnement. Il y aurait un plus grand nombre d'autistes et d'Alzheimer chez des gens qui ont été exposés au tabagisme.
Bon, sur
c'est
le
pas
dernier,
en lien direct.
Là, je peux pas vous répondre. Mais sur l'asthme et d'une manière générale sur les rapports environnement génétique. Dans toutes ces pathologies communes, vous avez toujours de l'environnement et du génétique. Alors, l'environnement peut être plus ou moins fort, le génétique peut être plus ou moins fort, mais de toute façon, en fait, c'est très difficile à déterminer parce que c'est par rapport à un environnement donné. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a l'obésité devient, ce qu'on appelle l'obésité même morbide, devient un problème de santé publique. Et vous baladez aux États-Unis, les extrêmes obèses, il y en a plein aux États-Unis. Dans le temps, on n'en voyait jamais en France, on commence à en voir. Ça, c'est pas parce que les gènes ont changé. C'est effectivement l'environnement qui est responsable de ça. Mais pour le même environnement, et vous savez très bien qu'il y a des gens qui mangent d'une manière qui ont un solide appétit et qui ne grossissent pas, parce que le métabolisme est variable d'une personne à l'autre. Donc, si vous voulez, par rapport à un environnement donné, c'est la génétique qui fait la différence. Par rapport à une génétique donnée, c'est l'environnement qui fait la différence. Les deux sont importants. Et dans l'asthme, c'est la même chose. Effectivement, il y a une augmentation de l'asthme. Cette augmentation est due à l'environnement. Mais nous partageons tous ce même environnement. Et tout le monde ne devient pas asthmatique. Donc, si vous voulez, dans cet environnement, c'est des gens qui ont une prédisposition à l'asthme qui vont faire plus facilement, etc. Alors, maintenant, on peut se dire, agir sur les gènes, c'est difficile. Agir sur l'environnement, en principe, ça devrait être plus facile, sauf que on voit que c'est quand même pas si facile que ça de faire changer les habitudes de consommation ou de toute la population. Mais ça, c'est un problème. Est-ce qu'il faut agir sur les gènes ou sur les mécanismes pathologiques par des médicaments ? Évidemment, c'est ce que préfère l'industrie pharmaceutique. Ou dans les cas où c'est possible. Je pense que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, le rôle de l'environnement est quand même limité. Mais dans l'asthme, il est certainement important.
Jean-Louis Mandel, merci beaucoup.